au sujet de la table ronde concernant traduire le monde arabe. Et je voudrais savoir s'il y a un rapport entre le statut de la langue arabe en France et la proportion des ouvrages traduits de l'arabe.
On parlait de barrières tout à l'heure, on se parlait de barrières, on est face à, non pas une, mais plusieurs barrières. Effectivement, la langue, ou la représentation de la langue arabe, ici en France, joue énormément. C'est-à-dire que on a tendance, je vais caricaturer à l'extrême, on a tendance à se dire que c'est un truc d'immigrés, pour les immigrés, ou c'est un truc de barbus. Voilà, la langue arabe, c'est ça. Par contre, langue de culture, c'est pas gagné, voilà. Donc, bon, c'est un peu brutal, évidemment, ça se passe pas comme ça, mais il est certain que les représentations de la langue et le statut même institutionnel de la langue arabe constituent une vraie barrière. L'enseignement de l'arabe ici en France, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour ouvrir des classes d'arabe dans les lycées, les gens sont obligés de la payer.
Mais quelque part, on n'est pas obligé de connaître l'arabe pour lire des auteurs arabes. On peut les lire en traduction, justement, et c'est ça le privilège extraordinaire que vous avez. Je veux dire, dans une maison
de traduction, bien sûr.
Mais si on attend que soient implantées des classes d'arabe, on attendra encore trois siècles, et encore.
Non, mais je disais ça pour illustrer justement ces représentations.
Et je veux dire que c'est vrai que ça. C'est... Enfin, il me semble que si on attend. Non, il ne faut pas attendre. Et ben, justement, s'il n'y a pas de. Si on attend qu'il y ait des classes. Il y a 2 ans, au moment de la fête de la francophonie au mois de mars, Xavier Darcos avait lancé cette idée qu'il fallait implanter plus de classes d'arabe. Il avait raison, mais c'est un vieux vœu pieux. Donc ça demeure toujours une certaine. On attend, c'est vrai que c'est bien, on conseille cela, mais peut-être que mettre au programme un auteur arabe intéressant, entre parenthèses, entre guillemets, arabe, traduit en français, faudrait autant de bien. De toute façon, celui qui veut se spécialiser en arabe, il va le faire tout seul, par motivation individuelle, par carrière, par profession. S'il en a besoin pour sa carrière, il va le faire, il ne va pas faire ça à l'école. Je veux dire, je pense que c'est un peu ça. Oui.
Bon, là, je sortais complètement du cadre éditorial pour ce que m'inspire comme réflexion cette discussion. Déjà, là, on est en plein tableau de l'autre, pour le coup, c'est sûr. Mais des gens de ma génération que j'ai fréquentés, qui étaient maghrébins, pour le coup, la langue, c'était un tabou. Sacré tabou, la plupart ne la parlent pas, on ne leur a pas transmis cette langue. Et c'était une langue honteuse, presque, à l'école, ils n'aimaient pas que leurs parents leur parlent. Je me souviens, moi j'ai grandi dans des endroits de forte publicité, et y avait, la langue arabe était peu présente, elle était présente. De façon, en effet, une langue immigrée. Aujourd'hui, mes enfants, qui sont élevés dans un cadre hyper mixte aussi, qui leur apprend l'arabe des associations religieuses. Moi, dans l'école de mes enfants. Je ne sais pas si c'est représentatif, c'est un petit... Mais donc, je pense que oui, ce qui serait important, je suis d'accord avec vous, leur faire connaître l'arabe via la traduction, oui. Mais ça n'existe pas.
C'est un autre arabe, parce que l'arabe dont vous parlez, c'est le dialectal.
Oui.
Donc justement, c'est vraiment le lien avec l'origine et le pays. Alors que l'arabe des auteurs, il y a très peu d'auteurs, 0,01% d'auteurs arabes qui écrivent en dialectal. Il y a des insertions de dialectal, par exemple chez Frey, des petits trucs comme ça, des petits scintillements de dialectal, un peu, au moment des dialogues, quand il y a de l'ironie. Mais c'est une autre langue.
Oui, j'imagine. Donc, mais là, ça doit participer ne serait-ce que la scission où vous parlez à l'intérieur même de la langue, ne peut pas, être sans effet.
Oui, en continuant sur cette idée de le tabou de cette langue d'origine, comme vous dites, elle n'est pas tabou uniquement dans le milieu immigré en France. La langue maternelle arabe, en réalité, n'est pas la langue de l'écrit, n'est pas la langue transmise à travers la littérature, sauf exception, comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est donc les langues maternelles, ce sont les dialectes parlés, donc c'est le syrien pour les syriens, c'est le marocain pour les marocains, c'est l'algérien pour les algériens, et ainsi de suite. Souvent, pour provoquer mes étudiants, je leur dis que la langue arabe n'est la langue maternelle de personne. Et qu'en réalité, les traducteurs qui traduisent de l'arabe vers le français ou vers une autre langue, en réalité, ils traduisent d'une langue étrangère vers une autre langue étrangère. Et c'est pour cela que je fais partie de ces exceptions qui sont honteuses aussi, c'est-à-dire je traduis dans les deux sens, parce que je traduis dans deux langues étrangères, pour moi. Mais en réalité, donc, la langue, c'est vrai que les dialectes, il y a une espèce de mythification de la langue de l'écrit, en rapport avec le Coran, etc., etc., mais pas seulement, à tel point que les dialectes semblent honteux et il y a très peu d'écrivains qui écrivent dans leur dialecte. Ou alors, on invoque, bien sûr, depuis le panarabisme, on invoque une langue qui serait commune à tous les Arabes et qui est en réalité une koiné. Donc, que ne parlent que les gens scolarisés, et donc que ne parlent pas la plupart des analphabètes. Et naturellement, c'est une langue de l'écrit qui ignore, par exemple, les registres de langues familières, argotiques, et ainsi de suite. C'est-à-dire, toute la dimension d'oralité est absente. D'où, donc, le recours au dialecte, à l'intérieur même des romans, par exemple, écrits en langue littéraire, on bascule tout à coup dans une presque autre langue. Bon, vous voyez que vous n'étiez pas d'accord. Effectivement, nous sommes dans une espèce de continuum entre l'arabe dialectal et l'arabe littéraire, bien entendu. Mais plus ou moins, ça dépend. Ce matin, j'ai parlé en marocain à un étudiant syrien, il n'a rien compris. Donc, parfois, voilà. Et je dois aussi avouer, et je le disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'interrogeait sur les langues arabes, que j'ai dû lire Emil Habibi, qui est un écrivain donc, arabe d'Israël, arabe de 48, qui écrivait en arabe. Mais naturellement, il écrit dans un arabe littéraire. Mais quand il passait au dialecte palestinien dans les dialogues, heureusement que Jean-Patrick Guillaume avait traduit le peptimiste. Sinon, tous les régionalismes, pour moi, d'origine maghrébine, je n'y avais pas accès. Donc voilà, effectivement, la traduction de l'arabe est quelque chose de très complexe et mériterait d'être, comment dirais-je, effectivement encouragée, parce que ça montrerait déjà une pluralité réelle, et ça, peut-être qu'on éviterait ces stéréotypes de la langue arabe, langue de l'immigré, ou la langue arabe, langue du barbu.
En fait, je reviens au problème institutionnel dont vous avez parlé, et j'aime bien en fait, interroger surtout Madame Philippe Toulon à propos des institutions comme les universités. Quel est le rôle des enseignants en fait, d'encourager les étudiants ou de créer une politique d'acquisition des auteurs arabes, surtout avec les bibliothèques universitaires, et d'éveiller le goût de la littérature arabe?
Écoutez, là encore, je suis un peu, même si je n'aime pas du tout cette posture-là, mais dans la marge, parce qu'en tant que comparatiste, je suis un peu à part, puisque mon domaine de spécialité est l'arabo-francophonie, et donc l'arabe en contact avec le français et inversement. Et naturellement, on le sait, même si ce n'est écrit nulle part, que la littérature francophone en tant que discipline, c'est généralement le monde européen. C'est d'autant plus que l'identité européenne a besoin de se construire autour d'un consensus et d'une ressemblance, ce qui est tout à fait normal, d'une cohérence. Et donc, elle ne peut se faire que, justement, par l'enrichissement d'une réflexion sur ce qui rassemble tous les Européens. Alors, quand moi je me présente comme comparatiste, naturellement, on me regarde un peu de haut en me disant « oui, bon, vous voyez ?» Mais ce que je voulais dire tout à l'heure quand Samia m'a présenté en tant que traductrice, je ne me sens même pas vraiment traductrice. Je crois que je suis tombée dans la traduction malgré moi, justement parce que un comparatiste est obligé de passer par la traduction. Le comparatiste ne peut pas maîtriser toutes les langues des domaines qu'il compare. C'est impossible. Donc, tôt ou tard, nous passons par la traduction. Et je dirais donc, en tant que comparatiste du monde francophone et du monde arabophone, que je suis peut-être, en tout cas, pas une traductrice professionnelle, plutôt, c'est pas une étrangère professionnelle, comme disait Fatih. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou vous voulez réagir à ce qui a été dit?
J'aimerais simplement savoir si ce que vous publiez, c'est essentiellement du roman, ou si vous arrivez quand même à publier d'autres genres, en littérature, pour ce qui concerne l'art.
Et 1%, c'est tout ce qui se publie en France, tout ce qui est traduit de l'arabe en France. Hein. Ce n'est pas, dans les maisons d'édition où on travaille. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on traduit? Effectivement, le roman, essentiellement. C'est-à-dire que, en gros, sur tout ce qui est traduit depuis. À peu près 25 ans, à peu près 50%, c'est de la littérature contemporaine, moderne et contemporaine. J'ai pas les chiffres en tête à l'intérieur de la littérature arabe contemporaine, entre poésie, roman, nouvelle, mais évidemment, le roman l'emporte tout simplement parce que, pour des raisons de marché, le marché de la poésie est très difficile, très pointu. Moi, personnellement, à mon grand regret, je n'arrive pas à défendre les recueils de nouvelles comme projet. Parce qu'en France, on n'a pas cette culture de la nouvelle, qui est plutôt anglo-saxonne. C'est vraiment dommage, effectivement, parce que des choses extrêmement intéressantes en Syrie, en Égypte, au Maghreb, aussi, sans doute. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça.
Savoir quelles étaient les proportions, si vous touchez tous les gens.
Cette constatation est conforme à peu près aux chiffres de production aussi en français. Hein. Plus de romans que de fiction et beaucoup plus que de poésie. On est à peu près, je pense, dans des. Si ce n'est qu'en plus la non-fiction, parfois. Alors là, on parlait des barrières, c'est encore une barrière supplémentaire parce que beaucoup de sujets traités en document. Sont vraiment propres à des problématiques liées à des pays qui parfois ne sortent pas des frontières. C'est notre cas aussi, on exporte très peu de nos fictions. Pour des raisons simples, des liens d'actualité ou des analyses politiques franco-françaises, il y a peu de chances que ça passionne un éditeur grec. L'inverse est vrai. Qu'il y ait en plus le roman à quelque chose de plus facilement universel. Merci à vous.